Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
Bienvenue dans les portes de la connaissance. Alors, j'avais dit qu'on ne faisait pas d'émission cet été, et puis j'ai eu une petite idée. Il y a des gens qui sont en vacances, qui écoutent O2 Radio, et qui sont dans la région, certainement, qui ont l'idée de se brancher sur les ondes d'O2 pour écouter de la musique pendant les vacances et pour écouter les émissions d'O2. Et j'ai eu l'idée de faire une émission justement pour tous ces gens qui écoutent encore la radio cet été. Et ou qui ont l'habitude d'écouter les portes de la connaissance, ou qui écoutent les portes de la connaissance exceptionnellement parce qu'ils sont venus dans la belle région d'Aquitaine, de la bonne région bordelaise. Donc voilà, on fait une émission aujourd'hui exceptionnelle. Alors les portes de la connaissance, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? C'est tout simplement une émission qui parle de tout, on parle des étoiles, on parle de l'univers, on invite dans l'année des astrophysiciens, des gens qui parlent de l'univers, des gens qui parlent d'ufologie aussi. On parle de nos petits amis, les extraterrestres. On parle de toutes sortes de sujets, les anciennes civilisations. Et aujourd'hui, justement, c'est un sujet sur la naissance de la vie. Comment la vie est apparue sur Terre ? Comment elle a évolué jusqu'à la vie que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire la vie organique que nous connaissons sur les animaux, les humains, et la vie, bien sûr, végétale que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre. C'est une émission qui va parler de l'évolution du vivant. Alors, c'est une émission avec mes connaissances, puisque moi je suis beaucoup informé. Vous savez tous que je passe une licence en astrophysique dans le domaine des étoiles à partir de l'année prochaine. Donc, je pourrai vous présenter des sujets très intéressants à partir de l'année prochaine sur le monde des étoiles. Et j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup instruit pendant des années avec des scientifiques, des gens qui sont archéologues, et de la lecture de vulgarisation, je me suis instruit sur tout ce qui était ancienne civilisation et commencement de la vie sur la Terre. Donc j'ai un savoir que j'ai appris en, en, en tant que dans la vulgarisation tout simplement, en tant qu'autodidacte, j'ai étudié le domaine. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. D'abord, la vie, c'est quoi ? La vie, c'est tout simplement la vie qui s'est développée sur la planète Terre. Et on va parler que de la planète Terre. On fera d'autres sujets sur d'autres planètes durant le courant de l'année. On parlera du système solaire et on parlera de la planète Mars. Et on parlera de toutes ces possibilités de vie qui sont dans cette planète. Sur ces planètes, justement, et ces satellites qui sont dans le... Les satellites, ce sont des petites planètes qui tournent autour de grosses planètes qui sont sur dans le système solaire. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Donc la vie est apparue sur la Terre. Il dit alors d'après une théorie que j'ai mis en place, d'après des études que j'ai faites, d'après les études de scientifiques associées à d'autres études de d'autres scientifiques, j'ai fait une sorte de puzzle vous permettant de comprendre ce qu'aurait pu être le chemin de l'évolution de la vie. Je dis pas que le chemin de l'évolution de la vie que je vais vous mettre en face des yeux, enfin, en face des oreilles plutôt, va être le bon, mais c'est une des possibilités que je vais mettre en place, et vous allez bien écouter, et vous allez voir qu'effectivement, tout se tient, et si vous comprenez bien l'évolution de la vie, vous pouvez avoir effectivement un processus du vivant qui serait celui que je vais vous donner. Et il y en a plein. Il y en a plein. Plein de théories ont été émises. Darwin en est l'un des instigateurs. L'évolution a été expliquée par beaucoup d'archéologues, par beaucoup de gens qui étudient la naissance de la vie sur la Terre. Des théories, il y en a plein, elles sont toutes sérieuses. Il ne faut pas mettre de côté les théories qui ne sont pas celles que je vais émettre. Elles sont toutes sérieuses et je crois que tout le monde a le droit de se faire une idée, de savoir comment l'évolution a pu se faire sur la Terre. L'évolution de la vie, comment la vie jusqu'à maintenant a pu évoluer. Tout le monde a le droit de se faire cette petite idée et de prendre et de piocher, d'aller voir un peu partout. Et je crois que de l'information dans les livres, il y en a suffisamment pour qu'on puisse comprendre comment la vie a évolué. Alors, d'après la théorie que j'ai mise en place, voilà, la vie serait apparue sur Terre il y a 3,9 milliards d'années, approximativement 4 milliards d'années. La Terre se serait formée il y a 4,5 milliards d'années. Donc c'est une grosse boule de magma incandescent, puisque elle était l'amoncellement de morceaux de météorites, d'astéroïdes, de morceaux de silicates, de toutes sortes de matières, de poussières qui s'étaient accumulées dans un disque d'accrétion autour du Soleil. Et puis, elle a refroidi, alors c'était une grosse boule de feu, elle a refroidi. En refroidissant, elle a subi l'impact de milliards et de milliards et de milliards de petits morceaux de météorites, parce que vous savez qu'elle était sans arrêt bombardée par des poussières interstellaires, dont des petits morceaux de glace qui étaient la résultante des comètes, puisque les comètes sont formées de beaucoup de glace. Excusez-moi. Et voilà, donc les comètes et les débris interstellaires sont tombés sur la Terre. Ces débris contenaient de l'eau sous forme de glace, et ça formait à sa surface, en condensation, énormément de... Et puis tous les débris et toute la partie qui s'est formée de la croûte terrestre qui s'est formée autour de la Terre contenait énormément d'eau, puisque c'était des débris qui contenaient de la glace. Et donc tous ces morceaux se sont accumulés et se sont condensés pour former de la vapeur d'eau. D'accord ? Elle a refroidi. Et cette vapeur s'est condensée pour former des premiers nuages au bout de quelques centaines de millions d'années. Ces nuages ont formé ce qu'on appelle l'atmosphère primitive, je dis de la première Terre. Et c'est au bout de quelques centaines de millions d'années, cette condensation, quand la Terre se refroidit, c'est s'est condensé pour faire des pluies diluviennes et pendant des milliers d'années, la pluie est tombée, a formé des océans, des lacs et des rivières et la Terre était née. Voilà. Donc ça, c'était la première Terre. Et puis un océan est né, des méthanogènes sont nés dans cet océan, donc des premières bactéries qui sont apparues dans l'océan. Et ces bactéries ont donné naissance à une atmosphère de méthane. C'était la première atmosphère de la Terre, une atmosphère très chaude, très très chaude. Voilà, du méthane, principalement du méthane. Et puis, ça a duré un certain temps, mais... Une planète de la grosseur de Mars approximativement serait entrée en collision avec la Terre. Une planète qui était en rotation autour du Soleil, qui est sortie de son orbite, elle est rentrée en collision avec la Terre. Et là, ça a été l'explosion formidable. Et la Terre s'est disloquée en boule de feu pour laisser un disque d'accrétion autour de la Terre qui a formé la Lune en quelques années. La Lune s'est formée, d'accord, et a commencé à agir sur la Terre pour juste freiner sa rotation dans le fait que vous avez la rotation de la Terre qui tourne, elle tourne la Terre, et elle tournait sur elle-même à une vitesse beaucoup plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Les jours et les nuits ne duraient pas 24 heures ou 12 heures et 12 heures, mais beaucoup moins. On avait des jours et des nuits qui étaient beaucoup plus courts. Et puis cette lune qui agissait par gravité a ralenti la Terre dans sa rotation, et donc agit toujours pour ralentir la Terre dans sa rotation. C'est-à-dire que dans 10 000 ans, on sera peut-être avec une Terre qui fera 25 heures de temps au lieu de 24 heures, parce qu'elle agit dessus. Donc voilà, la Lune, voilà son rôle, et puis elle agit sur les marées, sur les océans. Elle a un rôle régulateur de la vie, indirectement. Voilà, donc la Lune n'est pas inutile. La Lune a une utilité, je dirais, voilà. Et donc la Terre s'est refroidie. À nouveau, les océans se sont reformés avec des couches de nuages qui ont formé des pluies à nouveau diluviennes. Les océans se sont formés. Et là, on a assisté à une Terre beaucoup plus riche en oxygène et en gaz carbonique qu'en méthane. Il y avait du méthane, parce qu'il y avait des méthanogènes, mais il y avait une atmosphère beaucoup plus riche en oxygène. Alors, comment on peut avoir de l'oxygène sur la Terre? Ben, les premières bactéries qui se sont formées étaient des bactéries microscopiques qui sont apparues dans les océans par justement l'ionisation des rayons cosmiques qui ont envoyé et qui ont permis aux molécules, avec l'électricité statique, de se coller, de former des molécules de plus en plus complexes pour finir par former de la vie, former des acides aminés, on appelle ça, et les acides aminés étaient venus aussi des corps célestes qui étaient dans l'univers, qui sont tombés sur la Terre, et se sont accumulés pour former des protéines, de l'ARN, de l'ADN, et après des premières cellules avec une enveloppe autour et un noyau. Et d'après la théorie, ces cellules ont formé effectivement ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les prokaryotes, on appelle ça des prokaryotes, les premières cellules microscopiques, et qui ont formé la vie, voilà, telle qu'elle est apparue sur la Terre. Et on a formé des cyanobactéries, qui sont des bactéries qui transforment le gaz carbonique en oxygène par transformation. Ben, vous connaissez tous la photosynthèse dans les plantes, dans les herbes, dans les feuilles. Ben là, c'est de la photosynthèse dans l'eau, avec les rayons du soleil qui frappent ces cyanobactéries et qui donnent l'apparence de donner de la vie. Et ben, cette vie qui dégage donc de l'oxygène par la transformation du gaz carbonique par photosynthèse, transforme petit à petit notre atmosphère en une atmosphère riche en oxygène. Voilà. Alors, elle est riche en oxygène, le gaz carbonique petit à petit diminue, l'atmosphère refroidit, on a un processus qui fait que l'atmosphère refroidit tellement que elle se transforme en boule de glace. On appelle ça la Terre boule de neige. Pendant des centaines de millions d'années, la Terre est glacée. Elle se retrouve à l'état glaciaire sur des kilomètres et des kilomètres d'épaisseur de glace. La vie qui existait s'enfouit sous le fond des océans. Le reste de la vie meurt, celle qui est en surface. Et les volcans qui existent, parce que les volcans existaient à cette époque, recrachent du gaz carbonique pendant des millions, des milliers, des centaines de milliers d'années. L'atmosphère se réchauffe, la glace fonde, l'océan redevient liquide, la vie réapparaît à la surface. Et là, à nouveau, le processus des cyanobactéries, l'oxygène augmente en grande quantité, pas à plus de 20, à plus de 20, 20 et quelques pourcents. Tel que nous l'avons aujourd'hui, tel que nous le connaissons aujourd'hui, une atmosphère riche en azote et en oxygène. Et voilà le tour est joué. Et là, on fait apparaître des prokaryotes, qui sont effectivement la résultante d'une bactérie, d'une cellule, d'une bactérie qui est beaucoup plus grosse, avec un noyau, et qui est beaucoup plus grosse, et qui va devenir qui est notre ancêtre, puisque nous sommes faits d'eucaryotes, nous sommes faits de ces bactéries, de ces cellules, qui sont des eucaryotes. Le processus va se jouer comme ça pendant des millions d'années, et la Terre va refroidir à nouveau, former une Terre boule de neige à nouveau, par le refroidissement. Elle va se réchauffer avec le gaz carbonique des océans, et là, un processus qui se passe, c'est que la vie remonte à la surface. Ces prokaryotes qui ont survécu ont trop d'oxygène pour vivre. Donc ce surplus d'oxygène va donner naissance à autre chose, à du collagène. Le collagène, c'est ce qui forme la peau des tissus des animaux et des hommes, des humains. Et ces tissus vont accumuler ces prokaryotes qui vont se coller les unes aux autres. Et en se collant les unes aux autres, elles vont former de la vie telle que nous connaissons aujourd'hui, la faune des Diacaras. Alors la faune des Diacaras, c'est quoi? C'est tout simplement la première faune aquatique qui va naître et qui va être celle qui va être nos ancêtres sont dans l'océan avec toute la faune aquatique, je dirais des dinosaures. De nos ancêtres, les dinosaures de l'océan, tout simplement. Voilà, voilà un peu comment, vite fait, on a formé le processus de la vie. D'après les scientifiques, comment le processus de la vie aurait eu son sens pour nous faire apparaître jusqu'à ce qu'apparaissent les amphibiens, les mammifères, les dinosaures qui disparaissent, qui vivront pendant des dizaines de millions d'années sur la Terre, qui auront leur règne de vie et qui vont disparaître avec une énorme météorite qui va les exterminer et qui va faire que les dinosaures n'existeront plus au bout d'un moment et disparaîtront. Et puis après, les mammifères vont survivre aux dinosaures et va apparaître le singe qui est proche de nous, qui est normalement l'ancêtre de l'être humain et qui va apparaître avec l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, toute l'épopée de la vie et de l'organisation sociale de ces sociétés qui étaient des sociétés indigènes qui ont appris à faire le feu, qui ont appris à faire la chasse, à pêcher, à fabriquer des instruments de pêche et de chasse, à tailler des silex, et aujourd'hui à fabriquer des vêtements en peau de bête avec des outils qu'ils taillaient dans la pierre, et jusqu'à ce que nous allons y venir juste après cette musique que je vais vous passer, puisqu'on va faire une pause musicale. Et là, je vais vous expliquer le processus, normalement, de l'apparition d'êtres plus évolués après cette théorie, qui est la théorie, je dirais, la plus en vogue actuellement, la théorie standard de la naissance de la vie. Voilà, donc on va mettre une page de musique, et puis on revient tout de suite après. Thank you. Alors, de retour sur les ondes de radio dans l'émission Les Portes de la Connaissance. Pour ceux qui nous rejoignent, vous avez l'émission en podcast sur le site des Portes de la Connaissance, des émissions du vendredi à 14h sur O2 Radio. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'évolution du vivant, c'est-à-dire des bactéries jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Comment on en est arrivé là et comment nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc on en était aux hommes de Néandertal et de Cro-Magnon, on en était à cette société qui était une société peu évoluée, mais qui évoluait dans le temps avec une organisation sociale et une organisation spirituelle, puisqu'ils avaient une spiritualité. Il faut savoir que la spiritualité d'autrefois était liée à quelque chose qui est un petit peu différent d'aujourd'hui. Nous avons nos religions qui nous cantonnent à avoir des croyances et ne pas quitter nos croyances. Mais ces peuples avaient la vraie croyance des dieux célestes, c'est-à-dire qu'ils regardaient les étoiles et ils imaginaient que les étoiles étaient tout simplement des divinités et que ces divinités veillaient sur les hommes et sur la terre. Et il y avait effectivement... représenter, on en parlera tout à l'heure, des dieux qu'ils représentaient à leur manière sur les grottes et sur les parois des grottes. Et il y a quelque chose d'absolument étonnant sur les parois des grottes, et ça, personne n'en parle dans les grands médias. Et c'est bien triste et bien malheureux, parce que pourtant, ça existe bien, et c'est la vérité. Je vous demande d'aller piocher sur Internet, d'aller voir, d'aller acheter des livres sur les anciennes civilisations, et vous verrez que ce n'est pas du baratin. On a découvert que sur les grottes, sur les parois des grottes, ils avaient dessiné des objets peu communs, qui ressemblaient à des fusées, et à des vaisseaux spatiaux, des soucoupes volantes. Et c'est sur les parois des grottes qu'on a découvert ça. Et alors, ce n'est pas mis au grand jour, parce que ça bouleverserait l'opinion publique, évidemment. Mais c'est petit à petit mis au grand jour par des archéologues de la version moderne de l'archéologie, qui petit à petit arrivent dans les médias, sur des chaînes privées, à montrer la vérité. Et on ne sait pas ce que venaient faire ces dessins où on voyait des espèces de triangles, de bâtons, dessinés avec des flammes derrière. Qu'est-ce que ça venait faire sur des parois de grottes? Et on n'en a aucune idée. Et on suppose que c'était effectivement la retranscription de tout simplement... De choses qu'ils avaient vues à l'époque. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils avaient vu? Qu'est-ce qu'ils avaient vu dans l'univers? Qu'est-ce qu'ils avaient vu en regardant le ciel pour dessiner ces choses qui étaient étonnantes? Tout simplement, ils avaient vu quelque chose d'étonnant. Mais étonnant quoi? Quoi exactement pour dessiner ce genre de choses? Alors, je pense que ils avaient un regard à poser sur les étoiles, et qu'en regardant les étoiles ou en regardant en plein jour, ils ont vu des objets lumineux, et que ces objets lumineux avaient effectivement une apparence de ce que nous appelons aujourd'hui vulgairement des ovnis, et qu'ils ne savaient pas comment appeler ça autrefois. Ils n'avaient pas de dialecte, de langage, d'alphabet. Donc ils les ont tout simplement dessinés. L'alphabet d'autrefois, c'était les dessins rupestres qu'on faisait sur les grottes. Voilà. Donc ils ont fait ces dessins et ont représenté ces civilisations qui, normalement, seraient effectivement des civilisations. Alors, aucune certitude n'est liée aux dessins qui sont notés, qui sont écrits sur les roches. Je voudrais rappeler que ce ne sont que des théories qui sont basées sur des observations. Ça veut dire qu'on ne sait pas à quoi ça correspondait, ces dessins, mais normalement, dans la logique des choses, quand on réfléchit bien, ça pourrait correspondre à des observations d'OVNI qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et donc, on observe ces dessins. Et on remarque qu'autrefois, il y a des civilisations indigènes, comme en Australie, la plus vieille du monde, qui auraient inventé un instrument qui s'appelle le boomerang. Alors, ces gens ne savaient pas faire cuire de viande sur le feu, avaient tout juste inventé le feu, mais savaient fabriquer un objet qu'on appelle le boomerang, qui est un objet qui revient à son lanceur et qui a un aérodynamisme très important sur le plan du fait qu'il est parfaitement calculé avec des formules mathématiques pour revenir à son lanceur. Alors, comment fabriquer un boomerang quand on ne sait pas faire de cuire de la viande sur le feu? C'est là que je vous pose la question. Et ben, normalement, c'est pas possible. Voilà, parce qu'il faut faire des calculs mathématiques. Et donc, ça veut dire qu'une civilisation autre, en dehors de la nôtre, extérieur à la Terre, leur a enseigné quelque chose. D'ailleurs, sur les grottes, ils ont dessiné la déesse de la Voie lactée, qui est une déesse qu'ils représentaient et qu'ils ont dit avoir vue comme un chariot de feu volant dans le ciel, leur apportant la lumière, et la déesse Volinga, qui était celle qui allait apporter le savoir à ces civilisations exogènes. Alors, c'est très curieux, parce que Volinga n'est très peu connu que du grand public, mais si vous regardez certains documentaires, on vous en parlera. C'est assez étonnant. Voilà. Donc, Volinga leur enseigne des tas de choses, dont l'astronomie, dont l'art de fabriquer le boomerang, et bien d'autres choses encore. Et cette déesse de la Voie lactée était venu pour leur enseigner beaucoup de choses. Ils repartent avec des connaissances. Sur la Terre, ailleurs, il y a d'autres rencontres avec d'autres peuples. Un peuple en Guinée qui aurait rencontré aussi des êtres venus des étoiles, où les récits sont, d'après ce qu'ils racontent aujourd'hui, dans leurs récits à eux, des êtres venus dans un vaisseau avec des flammes gigantesques qui se seraient posées sur la Terre. Ils avaient des combinaisons, comme des scaphandres. D'ailleurs, les combinaisons et les scaphandres qui sont représentés sur les parois des grottes de l'époque sont représentés comme des scaphandres, comme des cosmonautes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient faire sur des grottes? Je vous pose la question. Donc voilà, on a effectivement cette épopée qui montre que autrefois, il y avait des visites, il y aurait eu, normalement, si la logique des choses veut bien affirmer ce genre de choses, des visites d'êtres exogènes qui seraient venus des étoiles. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, d'où il sort tout ça, ce monsieur? Ben, tout simplement d'écritures, de livres qui sont écrits par beaucoup de gens qui écrivent sur des anciennes civilisations. Pas n'importe qui, puisque vous avez des gens qui sont très intelligents, qui sortent avec des doctorats et qui écrivent ce genre de choses. Donc c'est pas des imbéciles, c'est pas des gens qui inventent, c'est des gens qui font des recherches intéressantes, mais on ne les met pas en avant parce que ce n'est pas la théorie standard, c'est pas celle qui est mise en avant la plus aujourd'hui, mais c'est celle qui est en vogue de plus en plus vers le public, et c'est celle qui va apparaître comme étant la théorie qui dans quelques dizaines d'années sera la théorie la plus en vogue, je le pense. Donc voilà, après vous avez le peuple Inca, vous savez tous qu'ils ont fabriqué des pyramides, la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune, comment des civilisations qui soi-disant étaient archaïques, comme on le dit, et comme veulent bien le dire certaines personnes, qui faisaient des sacrifices humains, je trouve ça un peu bizarre, mais enfin, voilà, pouvaient-ils construire avec une architecture aussi parfaite et aussi belle, des pyramides aussi compliquées à construire, avec des morceaux de pierre qui se joignent les uns aux autres, et qui se joignent parfaitement bien, où on ne peut même pas glisser une lame de rasoir entre, tellement ils sont bien joints, c'est-à-dire que c'est impossible de fabriquer ça avec des outils rudimentaires, parce que vous ne pouvez pas fabriquer ce genre de choses avec des outils rudimentaires et avoir une parfaite des pierres qui s'épousent aussi parfaitement. Puis quand vous avez des pierres qui sont jointes et qui sont polies, comme si c'était poli avec des machines modernes, avec les polisseuses qu'on a aujourd'hui, faut savoir que pour polir une pierre comme ils les ont polies autrefois, il fallait des années pour le faire s'ils n'avaient pas eu d'outils modernes pour le faire. Donc on se pose la question de savoir quelles étaient les technologies de ces gens pour fabriquer ce genre de choses. Voilà. Donc sur les anciennes civilisations, voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire sur la civilisation égyptienne. Elle a construit une pyramide avec 2,5 millions de blocs de pierre. Alors c'est bien joli, 2,5 millions de blocs de pierre. Mais comment? En 20 ans? Non, on ne peut pas. Même le constructeur du viaduc de Millau a dit que c'était impossible avec les machines modernes qu'on avait aujourd'hui de fabriquer la pyramide en 20 ans. Donc, ça veut dire que ces gens avaient des technologies, des possibilités de construire ça avec des outils modernes, donc que ces êtres seraient venus des étoiles et auraient effectivement apporté avec eux des technologies et auraient formé notre peuple humain indigène, qui est notre peuple humain d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les vrais humains sont les indigènes d'aujourd'hui, et nous, qui sommes la société moderne, serions le croisement de cette civilisation des étoiles et du peuple indigène. Ce qui fait que nous avons cette technologie aujourd'hui gardée d'enseignements d'autrefois de ces peuples qui avaient la possibilité d'avoir un langage mathématique, des hiéroglyphes, une architecture moderne et des machines qui ont permis de construire tout ça. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur ces anciennes civilisations. Ils ont construit ça dans un but bien précis, nous prévenir d'un cataclysme avec un alignement de tous ces monuments autour de la Terre sur un équateur incliné à 35 degrés par rapport à notre équateur pour nous montrer que si la Terre s'incline de 35 degrés dans nos temps modernes, ça voudrait dire que les glaces polaires auront fondu aux deux extrémités et que ce sera l'apocalypse causée par justement le fait que nous sommes dans le réchauffement climatique. Ils l'auraient prévu à l'avance, ils nous l'auraient prévu et ils l'auraient prévu avec une cartographie bien précise, avec le calendrier Inca, qu'on serait dans le déluge de l'eau et que ce serait le déluge du feu dans quelque temps où la magnétosphère terrestre finirait par disparaître et nous laisser les rayons du soleil et les rayons cosmiques nous bombardé de rayons X et de micro-ondes, ce qui ferait que ce serait la disparition et l'éradication de la vie, encore une éradication de la vie depuis qu'il y en a eu plein sur la Terre. Ce serait encore un passage où la vie serait éradiquée pour repartir vers un rebond à nouveau de réapparition de la vie et du vivant après. Donc une extinction massive de masse, et on serait dans cette ère d'extinction massive de masse bientôt. Voilà ce qu'on peut dire sur ces anciennes civilisations. Alors, il y a plein de théories qui disent qu'ils auraient eu des portes des étoiles, c'est allé très très loin dans les recherches, et qu'on avait découvert en Égypte une porte des étoiles, et qu'on aurait découvert dans d'autres coins du monde des portes des étoiles, comme celles que vous voyez à Stargate, mais pas tout à fait de la même manière, et qu'ils communiquaient entre continents, entre eux, pour voyager, pour se communiquer les plans de construction, pour aligner tous les bâtiments, justement, sur le même équateur, ce qui fait qu'ils auraient pu aligner tous les bâtiments précisément avec des calculs bien précis grâce au fait qu'ils communiquaient entre eux par continent. Alors, c'est des théories qui sont très avancées et très poussées. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont hurler, qui vont dire, mais c'est impossible, on peut pas penser ce genre de choses, il n'y a aucune théorie sérieuse qui argumente ça. Et s'il y a des théories sérieuses qui les argumentent, puisqu'on a découvert cette porte des étoiles, elle a été photographiée à l'époque, en Égypte, et elle a été cachée, par les autorités pour que personne ne mette la main dessus et ne dévoile à l'humanité qu'il y avait véritablement une porte des étoiles qui avait été découverte. Puis à Bagdad, en Irak, soi-disant qu'il y avait une autre porte des étoiles qui aurait été enterrée dans un musée et que nos chers Américains auraient récupérée. Donc il y a effectivement une épopée de la vie qui montre qu'il y avait la civilisation exogène que nous connaissons aujourd'hui. Par le biais de scientifiques qui nous disent qu'un peuple des étoiles est venu sur la Terre nous enseigner des choses et que ce peuple est venu sur la Terre. Alors pourquoi il serait venu sur la Terre? Pour fuir une planète en décomposition, tout simplement, parce qu'il faut savoir que les planètes ont toute une durée de vie et qu'eux aussi seraient venus des étoiles pour trouver refuge sur la Terre et auraient vécu très très longtemps sur la Terre et nous auraient laissé ce savoir. Après, que sont devenues ces anciennes civilisations? Alors, une partie de ces anciennes civilisations serait restée sur la Terre, évidemment, et d'autres se seraient réfugiées dans des grottes. D'autres seraient repartis vers les étoiles, ce qui fait que nos chers visiteurs que nous voyons aujourd'hui et les observations d'engins exogènes que nous voyons aujourd'hui, lumineux, qui sont des ovnis, seraient normalement nos ancêtres qui nous surveilleraient notre évolution et regarderaient comment nous vivons et comment nous évoluons et si nous ne faisons pas de dérapage trop important pour nous autodétruire, puisque la race humaine a la malheureuse fâcheuse manie de détruire sa propre nature et sa propre maison, puisque la Terre, notre maison, nous la détruisons petit à petit avec le réchauffement climatique que nous avons provoqué indirectement, mais il y a aussi un réchauffement naturel qui vient s'y ajouter, plus le fait que nous coupons les forêts, nous polluons les océans, nous tuons les animaux. En fait, nous sommes une race plus arriérée, nous sommes une race plus, en fait, plus arriérés que les indigènes qui vivent sur la Terre, qui, eux, ne polluent rien, respectent la nature, chassent et pêchent, et ne font qu'utiliser ce que la nature leur donne. Donc on dit que ces gens sont des sauvages, mais en fait, le terme sauvage est mal utilisé. Je pense que le terme sauvage devrait être utilisé dans le sens inverse. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a des gens bénéfiques sur la Terre, qui sont des gens de bon augure, qui luttent contre le réchauffement climatique, qui vont lutter pour améliorer les conditions de vie des animaux et protéger l'environnement et la nature. Donc, parmi ces sauvages, il y a des gens qui sont des gens de bon augure et qui luttent pour justement améliorer les conditions de vie des humains et des animaux. Donc, heureusement. Alors, voilà en fait un petit peu. Et on en arrive aujourd'hui à l'homme d'aujourd'hui, donc, dont je suis en train de vous parler, qui est un homme qui a 40% des individus ne respectent rien. Et 60% des individus qui vont tout faire pour sauver la Terre. Donc il y a quand même un gros pourcentage de la population qui est du bon côté et qui va tout faire pour faire évoluer le peuple humain. Alors, l'évolution est devenue la suivante. On a posé le pied sur la Lune. On a Werner von Braun, qui était un Allemand à l'époque, a construit la fusée Saturne V et on est allé sur la Lune. On veut aller sur Mars, donc on veut aller à la conquête de l'espace, on veut aller voir d'autres planètes. Et nos chers E.T., si dans quelques centaines d'années, nous avons la technologie pour voyager loin dans l'univers, nous verrons et nous dirons, ces peuples exogènes, « Oh, regardez, dans le ciel, qu'est-ce que nous voyons ? Un vaisseau spatial. » Et ce sera exactement dans le sens inverse, c'est-à-dire que ce que nous observons aujourd'hui, eux l'observeront en voyant des civilisations venues de loin, les observer, et bien ce sera nous. Donc c'est la situation inverse, c'est-à-dire que rien n'est impossible, ce que nous vivons nous pouvons le faire vivre à d'autres peuples. Voilà un peu, à peu près ce que j'ai pu vous dire rapidement, parce que je pense que pendant 3 heures, on pourrait parler des anciennes civilisations, et on pourrait parler de beaucoup de choses sur... le devenir de l'homme, le savoir technologique. On fera une émission d'ailleurs à la rentrée sur le savoir de l'homme moderne, son devenir et son futur, et son devenir dans la technologie, la robotique, tout ce qui est moderne, et on verra comment l'homme va évoluer. Ce sera la suite de cette émission, justement, qui vous montrera comment l'homme peut évoluer. Donc, des choses à dire, il y en avait plein encore sur les anciennes civilisations. Je n'ai fait que dire, ne parler que d'un dixième de mes connaissances et d'un dixième de ce que je sais, parce qu'il faut bien faire une émission d'une heure, et on ne peut pas, en l'espace de 50 minutes, faire une émission qui dure 3 heures normalement. Voilà. Donc, chers vacanciers, chers Bordelais, voilà l'émission qui sera mise en podcast, qui repassera au mois de, au début d'année. Je la remettrai en ligne, vous pourrez l'écouter à nouveau. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est des théories qui sont mises en place, des théories qui sont très sérieuses pourtant. Même si ce sont des théories, c'est très sérieux. Il y a des choses dans ce que j'ai dit qui étaient standards, qui étaient dans la version que tout le monde a mis en avant, et des choses qui sont plus interdites, dont j'ai parlé aujourd'hui, qui vont faire grincer des dents beaucoup de gens, mais malheureusement, il faut en parler, parce que si on veut faire avancer les choses, il faut en parler. Voilà, donc merci à nos auditeurs d'avoir écouté cette émission, merci beaucoup, merci infiniment. On va finir par une... page de musique. On va finir par une page de musique. Et puis, on reviendra, ben, je crois, à la rentrée maintenant. Maintenant, on reviendra à la rentrée parler de... oui, on reviendra parler de différentes choses, dont des émissions très intéressantes. Je vais inviter, évidemment, dans les portes de la connaissance, je vais inviter des gens très intéressants. Il va y avoir Greenpeace qui va venir. Greenpeace va venir, les gens de Greenpeace. Donc vous allez avoir l'honneur de connaître ces gens qui défendent l'environnement. Il va y avoir des gens qui vont venir d'associations, d'écoles qui défendent les milieux marins. Il va y avoir des émissions sur le système solaire, sur la planète Mars, des émissions sur les ovnis. Il va y avoir des émissions sur toutes sortes de métiers. On va recevoir les compagnons du devoir. On va avoir des émissions sur les métiers comme pilote de ligne. On va avoir beaucoup d'émissions, dont l'émission que vous connaissez tous, Les Soleils de nos régions, avec les artisans que vous avez envie de connaître. Voilà le beau programme qui vous est promis pour la rentrée. Voilà. Donc merci à tous encore. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt à la rentrée. Merci beaucoup. Au revoir.
De la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.